Moi, je suis un oriental. J'ai reçu totalement ce que
tu dis.
Parole aux auditeurs, ce lundi, l'émission se consacre aux forces de l'ONU en marge de la Journée internationale des casques bleus qui est célébrée chaque 29 mai. C'est depuis 2002 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété que cette date soit désormais la Journée internationale des casques bleus. La décision a été prise afin de rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi et qui servent encore dans des opérations de maintien de paix des Nations unies en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage, et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Cela fait plus de 10 ans que les forces de l'ONU sont en RDC, d'abord en mission de maintien de paix et actuellement en mission de stabilisation. Comment appréciez-vous le travail des soldats de la paix en RDC depuis 1999 à ce jour? Nous aurons comme invité le lieutenant-colonel Guy, les chefs des opérations à la MONUSCO. Cécile Poutou et Nicole Ngaka réalisent cette émission. Marie-Chantal Lumbata, présentation, et Kouza Matoujou, et à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
La réalisation me fait signe que notre invité est déjà en ligne. Bonjour, lieutenant-colonel Guy.
Oui.
Il y a un retour, il y a un bruit tout juste autour de vous. Est-ce que c'est possible que vous puissiez éteindre votre poste de récepteur, votre radio?
Ouais, ouais. Attends, je m'éloigne encore.
Et suivre l'émission à partir de votre téléphone portable. Nous parlons aujourd'hui de cette journée internationale des casques bleus qui est célébrée chaque 29 mai. Ici en RDC, il y a eu plusieurs manifestations pour célébrer cette journée. Chaque année, il y a un message prononcé à l'occasion de la journée par le secrétaire général de l'ONU. Et cette année-ci, cette journée était consacrée à l'état de droit et comment l'ONU peut participer à un état de droit dans toutes les activités qui sont en cours. Nous constatons vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de vous et que c'est dans votre vécu. Le temps que vous soyez un endroit un peu plus calme, nous allons revenir à vous. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel, chef des opérations à la MONUSCO. Le temps que vous soyez un endroit assez calme, nous allons poursuivre cette émission avec vous. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons près de 57 minutes d'échange avec les auditeurs sur les casques bleus, les forces des Nations Unies, surtout leurs actions, mais surtout leur avis, ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils pensent de l'action des casques bleus en RDC depuis 1999.
Parole aux auditeurs.
Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous parlons de la journée internationale des casques bleus. La question que nous posons aux auditeurs, comment appréciez-vous le travail des soldats de la paix en RDC de 1999 à ce jour? Il faut dire que c'est pas la première fois qu'il y a une mission de l'ONU en RDC. Dans les années 60, il y avait déjà une première mission, question de pouvoir aider la population congolaise. Actuellement, cette mission qui est arrivée depuis 1999, au début c'était un mandat plus de maintien de paix. Actuellement, c'est un mandat de stabilisation, d'appui aux institutions, mais aussi de la protection des civils. Et plusieurs actions ont été menées, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du pays. Casque bleu, ce n'est pas un nom étranger à vous, donc vous connaissez quand même ce qu'est un casque bleu. Nous n'allons pas revenir sur cette définition. Nous avons déjà quelques auditeurs qui sont au bout du fil, comme Yves qui nous appelle de Denis. Et je rappelle à tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission, c'est le 081-890-69-69-081-890-69-69, pour nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Le temps que notre invité puisse s'installer confortablement dans un bureau, et parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de lui, j'espère que la situation s'est améliorée. Nous allons d'abord écouter Yves de Béni. Bonjour Yves.
Oui, c'est Steve de Béni.
Oui, Steve, nous vous écoutons. Quelle est votre appréciation?
Oui, en fait, je peux dire que vraiment, les cas sont bleus. Le moins, je sais que le bilan n'est pas vraiment positif parce que, bien sûr, ils sont en train de travailler. Parce que ce qu'on attendait d'eux, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, donc, vous allez voir, par exemple, comme a dit, par exemple, à Bounia. On croit vraiment que les cas sont bleus, ils sont équipés, ils ont beaucoup de munitions, ils ont beaucoup de humains. Souvent, ils ne satisfont pas je peux dire, le besoin de sécurité devant la population. Si le place où il y a des cas faiblés, les problèmes sont toujours là et il n'y a pas vraiment une solution parce que les cas à vous, mais avec les forces artémiques, après le départ des Français, il y a eu beaucoup, ils étaient très là, il y a eu vraiment beaucoup de lanternes dans les services et souvent, il y a eu avec retard, vraiment. Moi, je dis que vraiment leur. La mission vraiment du casque bleu n'est pas tout à fait positive, ce n'est pas ce que nous on croyait vraiment avoir.
C'est sur le plan sécuritaire, votre intervention, vous estimez que ce n'était pas suffisant ce qui a été fait et vous voulez que les casques bleus fassent davantage, mais est-ce que vous estimez pas que la police et l'armée ont aussi un devoir dans la sécurisation de la population au lieu d'attendre tout des casques bleus?
Oui, mais bien sûr, vous tous connaissez quand même la sécurité de notre armée n'est pas équipée comme le casque bleu. Je crois, notre armée congolaise actuellement et la police, mais ils n'ont pas assez de munitions. Je crois que les casques bleus ont plus de munitions, mais nous on a compris que l'erreur, ce n'est pas plutôt de protéger la population, c'est plutôt de protéger les engins de l'ONU. Je trouve qu'ils ont beaucoup de munitions. Alors pour moi, vraiment, je critique l'intérêt, je ne vois pas vraiment leur...
Vous reconnaissez qu'il y a eu du travail qui a été fait, mais vous pensez que ce n'est pas suffisant.
Oui, bon, ce n'est pas suffisant. Les qualifiés à 30%, même à 45% comme ça, mais
c'est
un conflit qui avait vraiment le moyen de faire plus avec les munitions qu'ils ont, je crois. Il faut qu'ils puissent encore essayer de faire plus. Mais actuellement, avec la paix, je vois qu'ils n'ont pas vraiment un grand rôle à jouer. Et d'imprimer les militaires, de refuser de sortir de la table et de ne pas dépendre seulement. Et c'est ça.
Merci beaucoup, Steve de Béni, pour votre intervention. Bonjour, André.
Bonjour, madame.
André, vous êtes à Guémena, nous vous écoutons.
Oui, madame, je voudrais d'abord commencer par remercier le casque bleu pour leur travail.
S'il vous plaît, André, vous connaissez. André, j'espère que vous êtes en train de me suivre. Vous connaissez bien les principes pour intervenir. Il est nécessaire que vous puissiez d'abord éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous. André, vous nous appelez de Guémena. J'espère que vous êtes en train de me suivre, André. André? En tout cas, André n'arrive pas à nous suivre. André, essayez un peu de nous écouter, comme ça l'échange sera vraiment meilleur. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui se trouvent actuellement à Guémena, qui sont en train de nous suivre sur 95.4. André, là, vraiment, on a un problème avec André, il ne nous suit pas. Parce qu'il faudrait, je rappelle à tous les auditeurs, ceux qui veulent participer à cette émission, d'abord de composer bien sûr le numéro, le 081-899-6969. Et dès que vous êtes au bout du fil, vous nous donnez votre numéro de téléphone, votre nom et la ville d'où vous appelez. Dès que nous vous rappelons, s'il vous plaît, essayez d'éteindre votre poste récepteur. Parce qu'à ce moment-là, si vous le gardez allumé, ce ne sera pas possible pour nous de bien vous suivre, ou carrément vous éloigner de ce poste récepteur, de l'éteindre de la meilleure façon, parce que vous allez suivre l'émission, vous aurez un retour à partir de votre téléphone portable. Et notre invité est au bout du fil, nous allons juste le prendre après ceci.
Parole aux auditeurs.
Lieutenant-colonel Bell, j'espère que cette fois-là, la communication est meilleure avec vous.
Oui, affirmatif, elle est meilleure,
oui. Oui, nous avons eu déjà deux auditeurs qui ont donné leur avis, ils ont essayé d'apprécier l'action des casques bleus en RDC. Par exemple, Steve, il estime qu'il y a eu du travail qui a été effectué depuis 1999, mais il pense que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous pouvez en fait nous rappeler qu'est-ce qu'une force de l'ONU? Quelle est la mission d'une force de l'ONU?
Merci beaucoup, merci à tous nos auditeurs de la radio Okapi. Merci aussi de m'avoir invité à cette très importante émission.
Mm-hmm.
Pour rappeler la mission des Nations Unies, c'est une mission de paix. Une mission de soit de rétablissement de paix, si la paix a été menacée quelque part, ou une mission de restauration d'intégrité d'un pays donné, comme c'est le cas de la RDC. Donc mm-hmm. la mission des Nations Unies à RDC est une mission qui consiste à rétablir la paix, à restaurer l'autorité de l'État qui est de l'État du territoire et à arriver à un niveau acceptable de sécurité qui permette un développement durable de la RDC.
Mmh.
Donc nous évoluons dans ce cadre.
Oui, et il y a Steve de Béni qui estime que souvent ce n'est pas suffisant. Il a donné le cas de l'Ituri, de là où il vit. Il y a plusieurs cas d'insécurité qui sont répertoriés et il constate que les forces des Nations Unies sont bien équipées par rapport à l'armée congolaise et il pense que ce n'est pas ce qu'il s'attendait à ce que les forces de la MONUSCO puissent faire mieux pour rétablir la sécurité dans le sud du pays. Et dites-nous un peu jusqu'où se limite en fait le mandat des forces des casques bleus en RDC, parce que là, Steve se pose vraiment des questions.
Très bien, il faut d'abord comprendre que la mission des Nations Unies à RDC, qui est là depuis pratiquement une dizaine d'années,
mm-hmm.
Est une mission très complexe. Et il est tout à fait légitime également que les gens s'interrogent sur le succès de cette mission et que les gens ne soient pas trop satisfaits du bilan qui est actuellement réalisé. Mais nous faisons une autre lecture de la situation à RDC. Si vous comparez la situation en démocratie du Congo en 2000 et en 2010, on voit nettement qu'il y a une très nette amélioration de la situation sécuritaire. Les populations sont un peu plus libres de circuler. Il y a beaucoup de zones qui ont été déclarées zones rouges à l'époque, aussi bien dans le nord, mais surtout en province orientale, où maintenant, il y a un rythme de vie normal et la population va tout moment à leurs occupations.
Mm-hmm.
L'autre point positif qu'il faut souligner, c'est le retour des populations. Beaucoup de populations déplacées qui, à l'entame de la guerre, avaient quitté la RDC, soit pour se réfugier dans les pays voisins, ou bien pour se déplacer à l'intérieur du territoire vers d'autres localités, eh bien, on observe depuis quelques années un retour progressif de ces populations. En gros, il y a une évolution. Cependant, il faut admettre en toute sincérité que les défis sont nombreux. La RDC, c'est un pays extrêmement vaste, à 1800 km sur 1800 km, où également les infrastructures ne sont pas ce qu'elles doivent être, où il y a beaucoup de limitations sur le plan de la mobilité. Il y a vraiment la configuration du terrain qui est une contrainte majeure, qui offre beaucoup de possibilités aux groupes armés, aux bandes armées, d'échapper à l'attaque ou aux opérations que nous menons sur le terrain.
Mm-hmm.
Mais tout compte fait, au bilan, après les opérations conjointes qui sont menées aussi bien en province orientale que dans le nord et le sud de vous, eh bien, il y a lieu d'espérer et il faut saluer les efforts qui sont faits et admettre qu'il y a d'autres efforts qui restent à être faits, mais qui n'est pas seulement l'effort que la communauté internationale doit faire. C'est un effort qui doit être l'effort de tout le monde, des populations locales, des autorités politiques, étatiques, etc., mais également des autres partenaires, des ONG, qui doivent, en conjonction de leur effort, arriver à une stabilité durable qui est notre endoscope, comme on dit, qui est notre professionnel recherché.
Oui. Lieutenant-colonel Day, restez en ligne, nous allons écouter d'autres auditeurs qui vont donner leur avis sur les actions des casques bleus en RDC.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, docteur Adrien.
Salut.
Oui, vous vous appelez à partir de Kinshasa, nous vous écoutons.
Bien, je voudrais parler à votre invité d'abord pour l'informer que en 1961, il y a eu des forces onusiennes basées à Soumouévi. Nous étions encore des petits enfants. Les enseignants nous avaient demandé d'école en fait pour marcher, afin de demander ce que les forces onusiennes quittent les bâtiments de la clinique de Soumouévi.
Mm-hmm.
Parce qu'ils avaient occupé les bâtiments de l'internat. Alors, nous avons marché de la commune de Manissa jusqu'à la commune de Dilala, actuelle. Et quand nous sommes arrivés au niveau de la CENE, les forces tunisiennes qui étaient formées par les contingents marocains, ils ont tiré sur nous. Ils avaient tiré sur les enfants que nous étions, mais ce n'était pas des balles réelles. Mais il y a eu beaucoup de blessés à cette époque-là. Je voudrais qu'ils puissent cesser cette information, parce que moi, j'ai vécu personnellement cette affaire-là.
Mais nous, aujourd'hui, nous parlons des cas de 1999 à 1900 à ce jour. C'est ce que vous avez vécu, c'est assez douloureux. Mais parlons de l'action actuelle des Casques Bleus et qu'est-ce que vous en pensez. Et notamment, n'oublions pas que la mission est arrivée en RDC sur invitation du gouvernement.
Tout à fait. Aujourd'hui, ce que moi, personnellement, je regrette, c'est que j'observe qu'il y a beaucoup de Casques Bleus à Kinshasa. Bon, ils ont le droit d'avoir quand même une base ici à Kinshasa parce que je veux quand même la capitale, mais nous aimerions qu'ils puissent concentrer leurs efforts à l'intérieur de la République. Mais ce qu'ils sont en train de faire actuellement, franchement, personnellement, je l'apprécie à juste titre.
Merci beaucoup, docteur Adrien. Je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa. Vous estimez que le travail effectué par les Casques Bleus, vous l'appréciez. Et vous estimez qu'il faudrait plus renforcer l'Est. Notre invité toujours au bout du fil, le lieutenant-colonel Dave, vous avez suivi les propos de Adrien.
Oui, j'ai bien suivi. Effectivement, c'est un souci qui est majeur. Et d'ailleurs, pour satisfaire à sa curiosité, il faut retenir que 94% de déploiement de la MONUSCO, actuellement, c'est fait à l'est du territoire. Nous avons que 6% du potentiel de la MONUSCO déployé à l'ouest, c'est-à-dire Kinshasa, mais également Kasaï, mais également l'Équateur. Donc, nous maintenons cet effort de déploiement de l'enfance à l'est, parce que nous savons que les défis majeurs se trouvent à l'est de la RCC. Nous devons tout aussi avoir un lien ici à Kinshasa, parce que c'est le lieu de décision où nous devons collaborer avec les autorités et les gouvernementales sur place.
Et à présent, la force, on estime à plus de 17 000, environ 17 000 casques bleus en RDC.
Affirmatif, nous avons environ 19 000 environ. Comme vous le savez, on avait commencé une réduction des effectifs avant le 30 juin dernier. Et actuellement, voilà, nous avons environ 19 000 hommes répartis sur toute l'étendue du territoire, mais comme je l'ai dit, avec un effort particulier dans les Kivu et en province orientale.
Oui, et dites-nous que c'est vrai que cette année, le 29 mai, célébré sous le thème État de droit, à votre avis, les forces de la MONUSCO actuellement, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire concrètement sur le terrain pour la consolidation d'un État de droit en RDC?
Elles font énormément. D'abord, il faut comprendre comment circule l'article 12 de la résolution 2025, la dernière résolution concernant la RDC, que la MONUSCO, les forces de la MONUSCO ont pour rôle d'appuyer les forces gouvernementales, donc les forces de sécurité, le FARDC et la PNC, dans la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la RRA, la lutte contre le FDLR et contre tous les groupes armés qui sont l'insécurité dans ce pays-là. Donc nous n'avons pas la responsabilité de la sécurité totale. Nous appuyons. Donc nous prenons les conditions optimales d'un développement sécuritaire et également dans les conditions d'une vie normale au profit des citoyens congolais. Donc, nous poursuivons cette œuvre en liaison étroite avec la PNC, avec les FARDC, dans le cadre de nos attributions normales.
Nous allons suivre Sengi, qui se trouve aussi à Kinshasa. Il va donner son avis sur les actions des forces de l'ONU en RDC. Bonjour Sengi.
Bonjour Madame Chantal.
Nous vous écoutons.
Ok, merci beaucoup. Moi, je salue vraiment la mission de Casque Bleu en RDC, parce qu'ils sont déjà là depuis une dizaine d'années. Le travail qu'ils font, c'est un travail vraiment louable. Nous n'en disconvenons pas. C'est pourquoi nous les encourageons à continuer et à évoluer dans ce sens pour aider la population congolaise qui croupit toujours dans les différents conflits. Mais ce que j'ai comme inquiétude est que les constats Et à Kinshasa, nous voyons beaucoup de casques bleus, beaucoup. Ils sont là, toujours en train de rouler carrosse. On ne sait pas exactement, bon, nous savons qu'ils doivent avoir une base ici à Kinshasa pour coordonner toutes les activités dans les provinces. Mais ils sont tellement nombreux que leur nom ici à Kinshasa ne nous importe pas. Il serait mieux de renforcer parce qu'il y a encore beaucoup de zones de conflits à l'intérieur de la RDC. Alors, il vaut mieux renforcer le nombre de casques bleus à l'intérieur, notamment à la province orientale, comme on vient de le souligner, à l'Équateur, et puis surtout à l'Est. Puisque nous voyons qu'ici, ils ne font pratiquement rien, à mon avis. Ils ne font pratiquement rien, ils sont toujours en train de circuler dans la ville, et puis pour moi, tout ça, c'est important. En plus, nous constatons que chaque année, donc, le casque bleu est renouvelé, le mandat de l'ONU est toujours renouvelé. Alors, aussi, dans cette question de l'ordre depuis 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse former des militaires ou d'autres casques bleus ici à Kinshasa, bon, je ne sais pas à Kinshasa, à l'RDC, pour augmenter leur nombre, pour bien toujours de prendre les autres casques bleus déjà formés qui viennent de non seulement de Nations Unies, mais qui viennent des autres pays. Ils pouvaient aussi former les Congolais ici comme ça. À partir de là, on peut quand même les renforcer aussi. Non, parce que ceux qui viennent encore ailleurs, c'est toujours les coûts en termes de financement et ainsi de suite. Ils pouvaient aussi former d'autres personnels ici. Comme ça, on a un bon nombre de militaires.
Oui, Tengui, d'ailleurs, l'invité nous a déclaré qu'il y a plus de 80%, plus de 90% des casques bleus qui sont plutôt déployés à l'est. Donc, c'est l'impression peut-être que vous avez qu'il y a beaucoup plus de casques bleus à Kinshasa et qu'il faudrait plutôt les redéployer. Mais donc, vous répondre par rapport à la question de formation, parce qu'il avait même déjà dit, mais va vous donner un peu plus de précision sur l'appui que les casques bleus de la MONUSCO apportent au FRDC concernant la formation. Il va vous donner plus de précision par rapport à cela. Nous vous remercions, Fengi, pour votre intervention. Nous allons au centre de pays où se trouve Mathieu. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Chantal. C'est peut-être Mathieu Assananga.
Moi,
je crois que l'ONU nous a accompagnés, nous, les peuples congolais, depuis la création de notre pays à la souveraineté nationale, en 1960, à la recherche de la paix. Et nous ignorons que l'ONU même a perdu dans ce pays son deuxième secrétaire général. Quand je dis plusieurs de ces casques bleus, d'ailleurs, certains nous en ont dit, je trouve que c'était de grands risques, madame. Ils sont aussi encouragés. Les casques bleus de l'ONU a joué un grand rôle très important dans notre pays pour la recherche de la paix et de stabilité. Oui, c'est cette assistance internationale dans ce pays, on pouvait parler autre chose. Pourquoi pas même la découpage de ce pays en deux? Moi, personnellement, avec mon aide, même si je dis à l'Assemblée démocratique du Congo, la Napoléon rend hommage et honneur aux casques bleus et nous demandons à l'ONU de nous accompagner aux élections de 2011. Ou après, nous souhaitons qu'il reste même 5 ans dans ce pays afin de maintenir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du pays. C'est ça ma proposition, madame.
Merci beaucoup, Mathieu de Fernanga. Nous allons à Guémena. Bonjour, Étienne.
Ah, bonjour, madame. Bonjour, Radio Café. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Nous vous écoutons, Étienne.
Ok, merci. Je voudrais justement parler de l'apport de la Monique, surtout le casque bleu. Ce qui concerne notre consulat africain et surtout le Congo en particulier. Je vois à mon avis que le casque bleu en fait un travail très consistant et très remarquable dans la mesure où aussi aujourd'hui on parle de la sécurisation au Congo. À l'Est et chez nous à l'Équateur, justement parce que c'est grâce à la présence de la casque bleue de la MONUSCO qui a fait en sorte qu'aujourd'hui notre pays puisse être stabilisé. Pourquoi moi je souhaite que le casque bleu puisse rester dans notre pays pour que la paix proprement dite puisse régner, parce que sans le casque bleu, nous allons croire que nous, Congolais, en fait, nous ne serons pas en mesure de sécuriser notre pays, nous ne serons pas en mesure de sécuriser notre population nous-mêmes. Donc, les rapports nous seront vraiment très importants.
Merci, Étienne de Guémena. Joseph, vous êtes à Kikapa. Bonjour.
Bonjour Marie Chantal.
Et vous, comment vous appréciez les actions de la force de l'ONU ici en RDC?
D'abord Marie Chantal, la première chose, je rends hommage aux casques bleus qui sont tombés sur les territoires congolais, notamment mon premier secrétaire général de cette institution internationale. Depuis sa création, donc la première mission a été effectuée ici à la République démocratique du Congo, justement après notre indépendance, quelques mois après notre indépendance. Alors il y a des casques bleus qui sont tombés, en tout cas je rends hommage à ces dignes personnes, en tout cas qui étaient venues pour stabiliser la paix, la sécurité au Congo. Et maintenant voilà, plusieurs années plus tard, donc nous sommes encore avec les Nations Unies ici à RDC. Nous apprécions bien donc le travail abattu par les Nations Unies, puisque lui c'était l'ONU, je pense bien que ça pouvait être des déluges dans ce pays par rapport à certains esprits qui sont en train de minimiser l'action effectuée par les par le casque bleu sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, nous avons quand même un instrument très efficace comme la radio classique qui permet aux gens de s'exprimer. Et ça, c'est l'apport des Nations Unies. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, comme si le plan social à travers le pays. Alors, ça, c'est vraiment louable. C'est ça, moi, ma contribution. Donc, pour la présence des quatre bleus, donc, sur le territoire.
Merci beaucoup, Joseph de Chikapa. Et nous allons à Kisangani. Après Pépé de Kisangani, nous allons redonner la parole au lieutenant-colonel Guy, qui est chef des opérations de la MONUSCO. Pépé, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les auditeurs et surtout à tous les cas Pépé.
Nous vous écoutons, Pépé. Nous vous écoutons.
Oui, pour moi, le cas des Nations Unies ont joué un rôle pour nous, population de la province orientale. Je voudrais comprendre avec moi que dans les bas et hauts Bénin, s'il n'y avait pas de cas des Nations Unies, on n'était pas arrivé à faire même la relais, les gens n'étaient pas même participer à la réalisation électorale. Il y a même le dossier de l'ELRA. Si aujourd'hui il y a la réduction de l'ELRA dans notre province, c'est toutes les bas. Et par rapport à l'implication des cartes de Nations Unies. Et j'ai une question que je voulais poser à M. le colonel Papaka. Je voulais savoir pourquoi ils ont effacué les cartes de Sénégalais au bas où il est. Pourquoi on les effacue aujourd'hui? Il y a encore une question qui est là dans les territoires d'Ango. Au moment où, par rapport au moment où les cartes de l'air, c'est quand c'est présent à ces points-là, c'est en gros les autres points de base, il y a des prédictions de l'ELRA, mais aujourd'hui il y a une prédiction de l'ELRA. En tout cas, moi je pense qu'il y a encore le temps de faire encore tout pour qu'on puisse envoyer encore les calculs à ces points-là.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Pépé de Kisangani. Nous avons vraiment un problème avec la qualité de la liaison téléphonique, mais nous allons faire un effort pour poursuivre cette émission, voir dans quelle mesure nos techniciens vont se battre bec et ongles pour pouvoir améliorer cette qualité. Et nous allons redonner la parole à notre invité qui juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Lieutenant colonel Guy, vous avez suivi cette série d'auditeurs. Nous allons essayer d'y aller systématiquement pour que ceux-ci répondent aux préoccupations de nos auditeurs. Par exemple, la préoccupation de Sengi qui se pose des questions, savoir sur base de quoi on arrive à avoir une force de l'ONU, parce qu'il pense, il estime qu'il faudrait plutôt renforcer les capacités des FARDC et ainsi on pourrait réduire d'une manière ou d'une autre le nombre des casques bleus.
Oui, c'est une idée. D'abord, permettez-moi de remercier les intervenants pour ce témoignage satisfaisant et encourageant à l'endroit de la force de la MONUSCO en RDC. C'est une idée qui l'a lancée. Il faut réduire le nombre de casques bleus et mettre l'effort sur la formation. Je crois qu'on y est déjà, parce que notre mandat également prend en compte la réforme du secteur de la sécurité, où nous devons contribuer à la formation et à l'entraînement des forces des armées de la République démocratique du Congo et de la PNC. Nous avons fait un travail significatif sur ce plan, et pas plus tard qu'avant-hier, on a inauguré le début de la formation de deux policiers donc dans le Bas-Congo. Nous poursuivons cet effort, notamment dans le cadre de l'appui à la réforme des armées, parce que les FABC se sont engagés dans un programme très ambitieux de réforme de leur armée qui passe par la régimentation, qui passe par le redéploiement et la reconfiguration de la force, qui est extrêmement remarquable et qui va, en fin de compte, permettre d'avoir un outil très performant de sécurité. Nous les accompagnons dans ce sens, dans les positions que nous occupons avec eux, où nous sommes co-déployés avec eux, nous faisons de la formation in situ, ce qu'on appelle on the job training, avec les FABC, où nous les initions à certaines techniques, soit en génie, soit en mécanique, soit en technique de combat. Et ceci également participe également de notre contribution à la formation des FABC. Mmh. En plus de cela, les FABC ont également des programmes ambitieux qui appuient sur le bilatéral. Ils ont des coopérations bilatérales avec des pays qui les forment, leurs contingents, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme les États-Unis récemment. Et donc nous sommes là pour à la fois appuyer les opérations, mais également contribuer à la formation des forces armées de la République démocratique du Congo.
Oui, et concernant les casques bleus, les forces des casques bleus, la RDC, les militaires de la RDC ne peuvent devenir que forces de la Sous-Unie dans un autre pays et non dans son pays même.
Oui, ça c'est une question qui relève de la souveraineté nationale. C'est à la RDC de décider d'envoyer ces casques bleus ailleurs.
Mais c'est à ce moment-là qu'eux aussi, ils pourront défendre et maintenir la paix, exécuter toutes les tâches que vous êtes en train de faire actuellement.
Bien entendu, nous avons la conviction que les RDC ont atteint un niveau de professionnalisme qui leur permettre effectivement d'aller ailleurs, de faire les mêmes missions que nous sommes en train de faire ici. Pourquoi pas? Parce qu'ils en ont les capacités, ils en ont la volonté et ils en ont les compétences techniques et professionnelles.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu déjà un groupe de policiers qui se sont rendus dans un autre pays pour assurer aussi le maintien de l'ordre pendant un certain moment. Je pense que ça doit être en Côte d'Ivoire ou en Haïti. Il y a eu des policiers qui se sont rendus là-bas, mais je n'ai pas beaucoup de précisions. Je préfère même abstenir. Revenons d'abord sur cette idée de PP de Kisangani, qui a constaté que depuis que les casques bleus ont quitté le Bawele, il y a eu éruption des LRA. Qu'en est-il de la situation? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un nouveau redéploiement des casques bleus dans cette région?
Comme vous savez, nous sommes en reconfiguration permanente qui tient compte de deux secteurs. D'abord, de l'évaluation que nous faisons de la situation sécuritaire, qui n'est pas une évaluation unilatérale de la MUNIC également, mais nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement et avec également les autres partenaires qui ont mis en place une équipe conjointe d'évaluation qui sillonne tout le territoire de la RDC pour évaluer la situation sécuritaire. Mmh. Et en fonction des conclusions de cette évaluation, eh bien, il est décidé, par les décideurs, de reconfigurer, de fermer telle position, d'ouvrir telle position, de diminuer les taux. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de nos propres responsabilités, mais qui tient compte effectivement de cette évaluation qui est conjointe. Pour revenir à la question relative à la LRA, dans la Bawele, il a fait allusion par moment au contingent sénégalais qui a été redéployé du Bawele, précisément Ango. Non, ce n'est pas Ango, c'est à Dinga que les Sénégalais ont été déployés tout dernièrement. Ils ont été relevés dans le cadre du drawdown, dans le cadre de la réduction des effectifs de la MONUSCO. Donc, ils ont été le premier contingent à être relevé d'ici. Et par conséquent, le contingent est parti. Pour ce qui est du futur, qu'est-ce que nous envisageons de faire ou qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le Bawele? Nous sommes présents dans le Bawele, pas de façon permanente, mais de façon épisodique. À l'heure où je vous parle, nous sommes actuellement présents dans le Baoulé. Nous y opérons avec les FADC, notamment dans la zone de Banda, de Roma et un peu à la limite donc de Ango. Et nous y allons également chaque fois que de besoin, chaque fois qu'on est sollicité par soit les agences internationales, les agences humanitaires qui veulent y aller, nous les accompagnons en transport, mais également en escorte sécuritaire. Donc nous continuons à mener des opérations répétitives soutenues dans le Baoulé, jusqu'à ce que les autorités décident d'un déploiement permanent, que nous prenons en train d'envisager d'ailleurs. Mais il ne faut pas simplement voir la MONUSCO. Il n'y a pas que la MONUSCO dans ce dispositif sécuritaire. Il y a les FARDC également. Les FARDC ont renforcé leur présence dans le Baoulé. De Dingila, en passant par Dakwa, Dikwa et Bamangana et Banda, les FARDC, ils sont. Et ils ont renforcé leur posture et également renforcé l'état-major des FARDC qui est à Dungu, mais également participe aux opérations conjointes que nous menons contre la RRA. Mm-hmm. Si vous voulez d'autres enseignements sur la RRA, on peut peut-être développer là-dessus.
Dans une prochaine émission, mais nous savons que l'expression « parce que Dieu » fait souvent exclusivement allusion aux militaires. Et ça fait plus d'une vingtaine d'années que les opérations de paix des Nations Unies sont constituées à la fois des militaires et des civils. Et dites-moi, quelles sont vos relations avec les unités substantives qui sont dans la MONUSCO?
Merci. C'est une mission qui est intégrée. On l'appelle mission intégrée. Intégrée, ça veut dire qu'il y a une composante militaire, mais également il y a une très forte composante civile. Et nous travaillons en étroite collaboration, en complémentarité avec ces sections substantives civiles qui sont composées de la section des droits de l'homme, d'individus qui sont de la section des affaires civiles, des affaires humanitaires, mais également d'autres partenaires qui sont très nombreux, bien qui contribuent chacun à sa façon à atteindre l'objectif final que nous avons fixé, qui est la stabilité durable de la RDC. Donc nous avons ce bureau intégré, et nous avons également des forums où on se réunit journalièrement, hebdomadairement, de façon également très ponctuelle, pour décider de comment d'accord, de ce qu'on doit faire. De la mission, de ce qu'on va faire de nos déploiements, de ce qu'on va faire des missions futures. Donc, c'est votre symbiose que nous alimentons dans nos réunions périodiques, dans nos échanges, dans nos briefings que nous faisons au quotidien avec ces sections substantives civiles qui jouent un rôle important également dans la mission.
Oui, nous avons écouté Franck de Bougnat et Gaëtan de Bénis. Restez en ligne, lieutenant-colonel Gagne.
Parole aux auditeurs.
Franck, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous vous écoutons.
Bonjour, bonjour.
Nous vous écoutons. Comment vous appréciez les actions des casques bleus en RDC depuis 1999 à ce jour?
Bon, je crois, madame, au-delà de ces interventions de la mission de la CGI au Congo sur le plan humanitaire et sécuritaire, aussi, nous avons d'autres interventions à la caractère social. Pour lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment jeter des fleurs à cette question. Vous allez noter ici à Bougnat, par exemple, que il y a au moins 100 staffs locaux recrutés qui ont du moins retrouvé la dignité avec un travail de fond, avec un salaire. C'est ce qui a toujours été.
Merci, on a un problème avec la liaison téléphonique de Franck de Bougnat. Nous prenons d'abord Gaëtan. Nous allons revenir à Franck tout juste après. Gaëtan, nous vous écoutons.
Oui, bonjour.
Bonjour. Dites-nous un peu, okay. Quelle est votre appréciation?
Ok, merci beaucoup. Je pense que je salue le travail que les casques bleus ont fait, particulièrement dans notre pays. Ils ont vraiment fait un bon travail. Et ignorer le travail qu'ils ont fait, ça, c'est bien très grave par rapport à ce qu'ils ont vraiment accompli comme mission. Mais moi, je pense que je demanderais à ce qu'on puisse renforcer les éléments de casque bleu jusqu'au parti, la partie est de notre pays, surtout qu'avec les élections qui s'annoncent, ça sera un peu vraiment bien par rapport à la situation sécuritaire précaire que nous avons ici à l'est de la RDC. Et je voudrais aussi poser une question à l'invité, de savoir, je pense que les éléments qui ont commis, j'ai suivi le matin M. Alain, le roi, qui a parlé des violences sexuelles, je pense qu'ils ont commis, mais il y a quelques éléments leur promis un peu de violence. Vous savez plus avec ces gens-là. Est-ce qu'ils ont été traduits en justice? La suite, maintenant, par rapport à ce que c'était la justice, parce que ce n'était pas la Nation Unie, les pénales étaient respectives, etc.
Concernant les personnes qui étaient accusées de violence.
Les éléments des personnes qui ont commis les violences
accusées. Merci beaucoup, Gaëtan de Béni. Lieutenant-colonel Guez, vous pouvez répondre à cette préoccupation de Gaëtan.
Je vais répondre à la question, s'il vous plaît.
Oui, il se posait des questions. Il voulait savoir quelle était la suite, parce qu'il y a eu certains éléments des casques bleus qui étaient accusés de viol. Certains, il voudrait savoir ce qui est arrivé à la suite. Quelle était la suite, en fait, de ces éléments-là.
Ah, très bien. Sur ce plan, la mission des Nations Unies est extrêmement rigoureuse et prend immédiatement les mesures qu'il faut chaque fois qu'il y a des cas de discipline, des cas de violation des droits de l'homme. Et nous avons effectivement une procédure qui est extrêmement lourde et qui est très sévère à l'encontre des contrevenants sur le droit humanitaire, du droit international également, et également de l'intégrité physique des individus. Donc, soit que les cas sont rapportés, une enquête est diligentée très rapidement par l'unité spéciale, et des mesures immédiates sont prises qui vont du rapatriement à l'incarcération, à l'emprisonnement. Mm-hmm. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci à se faire. Et d'ailleurs, nous avons tout un dispositif légal et un dispositif répressif. Le CDU est là, mais également tout ce qui est éthique, déontologie, eh bien, la MONUSCO est extrêmement regardante sur ce domaine et également est très répressive en cas de confirmation de cas avérés.
Mais pour les cas qui ont été répertoriés l'année dernière, les années antérieures, quel a été le sort de ces casques bleus?
Je ne peux pas vous donner ici la réponse exacte parce que je n'ai pas l'histoire de ces événements-là, mais toujours est-il que je peux confirmer que si ces réactions ont été avérées, eh bien, c'est sûr que des sanctions sévères ont été prises à leur encontre.
Le souhait de l'un de nos auditeurs, c'est que les forces, la MONUSCO, puissent continuer à accompagner la RDC jusqu'à la fin de ce cycle électoral qui va débuter au mois de novembre prochain. Il y aura l'élection des présidents, du président et aussi des députés nationaux. Dites-nous, en tant que force de la MONUSCO, quel est votre appui dans le processus électoral?
Oui, la réponse est donnée très clairement par la résolution 1925 que la MONUSCO doit apporter son soutien logistique et technique au processus électoral, ce qui est déjà fait en partie, parce que le gros du matériel électoral a été déployé par les forces de la MONUSCO. Et nous continuons à ce jour à déployer et également à aider techniquement, puisque la division électorale est là également pour aider, pour appuyer le processus électoral. Pour ce qui est des détails de la mission de la force pendant le processus électoral, eh bien, le mandat qui va sortir sous peu va nous élucider sur les détails relatifs à ce mandat-là. Mais toujours est-il que nous continuerons à œuvrer, à participer au processus électoral.
Nous allons écouter Dieudonné de Goma et Arsène de Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Dieudonné, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Nous vous écoutons. Comment vous avez apprécié, en fait, le travail des casques bleus à Goma?
D'abord, moi, je félicite la mission en mission de l'air volé d'abord à ce qu'il contribue d'abord le 5e du président de la République en donnant l'emploi aux Congolais. Et en plus, je rejoins mon frère qui disait il souhaiterait que l'émission indienne puisse rester encore dans notre pays pour les élections prochaines. Et si on peut dire la stabilité, moi j'en doute pas, je suis convaincu parce que je suis à Goma, on ne pouvait pas se reculer après 18h, 19h, il y avait vraiment de l'insécurité. Mais bref, à la mission indienne, on s'est fait jusqu'à 21h, 22h passées, et nous sommes vraiment bien. Là, je suis vraiment parmi ceux qui disent que la mission indienne peut rester 5 ou 10 ans après les élections encore. Je suis vraiment avec du cœur avec eux.
Merci beaucoup, Dieudonné. Nous allons tout juste à vous dans le Sud-Kivu. Bonjour, Arsène.
Oui, bonjour, hein, c'est Arsène Odeloudel, hein, le patron de Sol Apama. Bon, j'ai réagi concernant les travaux que le conseiller de la MONUSCO fait sur l'Assemblée démocratique du Congo. En tout cas, c'est bon, mais je ne sais pas. On ne peut pas peindre.
En tout cas, nous avons des problèmes avec la ligne téléphonique de Arsène de Bukavu, mais en gros, il dit qu'il apprécie le travail effectué par les casques bleus de la MONUSCO. Il est toujours en ligne, notre auditeur de Bukavu. Non, la réalité me fait signe qu'on n'a pas pu le récupérer, la ligne s'est vraiment détériorée. Nous prenons Junior, qui se trouve en Bougimaï. Bonjour.
Bonjour.
Mais Junior, nous vous écoutons.
Oui, je remercie l'émission et le présentateur.
Mmh,
et puis, je loue les efforts fournis par les casques bleus. Je les encourage parce que sans les casques bleus, vous connaissez l'histoire de ces pays à l'Est. Moi, qui vous appelle, je suis au Qatar oriental en Bougimaï. Alors, par les voix des ondes, nous apprécions vraiment les efforts fournis par les casques bleus. Alors, j'avais un peu une question, une préoccupation.
Oui.
Est-ce que les casques bleus ne peuvent pas former notre armée, notre police nationale, pour qu'ils commencent à se prendre en charge au cas où les casques bleus quittaient notre pays? Parce qu'aujourd'hui, le casque bleu est avec nous. Il y a là où il y a la guerre, le casque bleu intervient et ça devient positif. Alors, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de former aussi notre armée pour qu'elle se prenne en charge au cas où il y a l'absence des éléments de casque bleu sur notre territoire?
Oui, Junior, peut-être que vous avez pris notre émission en cours, parce que déjà notre invité avait confirmé qu'actuellement se tient des formations d'appui des SRDC, la même cité, divers domaines dans lesquels les casques bleus sont en train d'appuyer les réformes en formation, surtout des SRDC. Malheureusement, mais n'oubliez pas qu'il y aura une rediffusion de cette émission à 20h03, comme ça vous aurez peut-être plus de précisions sur les questions par rapport à votre préoccupation, mais déjà l'invité avait répondu. Merci beaucoup, Junior de Mbujimaï. Nous allons à Béni, se trouve Moki Rania. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Moki Rania, nous vous écoutons.
Oui, je me dis que comment est-ce qu'on va évaluer une chose sans connaître les ceux qu'ils utilisent comme moyen. Il y a les moyens financiers qui sont mis en avance parce qu'il faudrait évaluer sur base de ça.
Mm-hmm.
Notre pays est en train de perdre d'énormes sommes d'achat par rapport à tout ce qu'ils ont comme opération. Mais il faut aussi nous remercier et nous rendre hommage à tout ce qu'ils ont perdu comme membres, comme équipage et tout ça. Alors, je suis à l'Est et il y a une phrase à laquelle les invités vont devoir essayer de nous donner plus de liens parce que nous sommes témoins de cette phrase qui dit que non, pas de guerre et pas de vie. No war, no life. Donc, cette phrase-là, je ne sais pas s'il en a déjà entendu. Il peut se faire passer pour ne pas l'avoir entendu au moins un jour. Ça vient, mais cette phrase-là, c'est laisse attendre ici pour les membres parce qu'il y avait un commandant du contingent indien qui faisait des choses, donc qui se rendait dans des cas de rebelles et en même temps il coordonnait les opérations militaires du côté FARDC. Lorsqu'il s'agira de défense, de faire des défenses sur le terrain, on va faire des défenses qui sont juste à cadre des formalités pour dire qu'on a fait telle patrie, on a fait ceci, on a fait ça. Mais dans l'entretemps, les rebelles seront déjà informés que non. Déplacez-vous de là-bas parce qu'on va venir faire une patrie là-bas. Donc, j'aimerais tout simplement dire que la mission des Nations Unies, elle fait des choses. Nous la remercions, nous sommes tellement reconnaissants de ça. Mais il y a certaines choses dont ils sont capables de faire. Mais ils ne veulent pas les faire seulement parce que les intérêts des impérialistes, quoi.
Oui. Mon Kira, parce que là, vous avez Il y a deux choses que vous venez de dire. La première, vous pensez que, disons, les gens font la guerre comme un fonds de commerce pour pouvoir donner du travail aux gens. C'est d'abord ça votre première préoccupation. Et la seconde, là je n'ai pas bien compris, vous dites que, il y a, vraiment j'arrive pas à comprendre qu'il y a certains agents, vous dites qu'il y a certains agents qui parlent avec les rebelles. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Parce que dans le cadre de la pacification, dans le cadre du dialogue, il est nécessaire de parler avec le camp adverse pour créer un dialogue et stabiliser la région.
Tout à fait. Les contraires s'observent. Des fois, ils parlent pour les bons sens, mais aussi, on agit le contraire. C'est ça. Oui.
C'est ce que vous avez constaté. Merci beaucoup, Moki Raya, d'être intervenu au cours de cette émission. Bonjour, Prosper.
Bonjour, Maïtata.
Oui, vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Merci pour votre émission. Bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Pour cette mission de la Monusco, je n'arrive pas à comprendre vraiment le sens de sa mission. De l'autre côté, ils disent qu'ils sont pour la paix, et d'une manière qualité, ils sont en train d'encourager au contraire le conflit. Mais à quand et à quel avantage ils doivent rester ici?
C'est vous qui le dites, professeur. Mais est-ce que vous pouvez donner des exemples un peu plus concrètement? Parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas comment des agents de la paix peuvent encore créer la guerre. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez constaté. Remerciez votre précédent de
Il y a une expression qui s'est répandue ici. Nous condamnons autres. Non, les agents de la MONUSCO ont dit que s'ils ne sont pas là, ils n'ont pas de travail. Ils ne sont pas comme nous autres. Alors, ils doivent créer des choses comme ça pour qu'on aille longtemps avec nous. Et nous soutenons, ils ont de bons salaires, ils vivent mieux par rapport aux gens qui entendent de la paix de leur part. C'est ça.
Merci, professeur de Guéménin. Nous allons redonner la parole à notre invité parce que nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. Lieutenant Colonel Gay, vous avez suivi ces dernières séries d'auditeurs. Que leur répondez-vous?
Voilà, je voudrais tout juste préciser que la MONUSCO n'a pas intérêt, n'a pas d'intérêt à défendre. Nous avons un seul intérêt, c'est l'exécution du mandat que la communauté internationale nous a donné. Et nous le faisons en toute responsabilité et en tout professionnalisme et en liaison, encore une fois, avec les forces de sécurité nationales que nous sommes censés appuyer.
Il y a certains qui estiment que il y a des slogans, pas de guerre, pas d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je voudrais tout simplement leur consoler la liberté de leurs commentaires. Je crois que les commentaires sont libres.
Et nous arrivons ici à la fin de cette émission. Est-ce que un message, lieutenant-colonel, parce que c'est quand même une journée des casques bleus, qu'est-ce que vous dites à vos collègues casques bleus et qu'est-ce que vous dites à la population congolaise?
Merci Chantal. Je voudrais tout simplement lancer un appel à la population, à tous nos auditeurs qui sont intervenus sur ces ventes, pour leur dire que la mission des Nations Unies AEDC est une mission de collaboration, une mission de complémentarité des efforts qui sont en train d'être faits par l'État, par les forces de sécurité, dans le cadre de la recherche d'une stabilité et d'une paix durable. Mm-hmm. Et nous le faisons avec eux et non contre eux. Et à nos chers collègues également de la mission, je leur demande tout simplement de continuer en toute responsabilité à exécuter le mandat qui leur est donné en toute responsabilité et éviter également que toutes les contraintes qui sont liées à la mission puissent être surmontées également en tout professionnalisme.
Merci beaucoup, Lieutenant-Colonel Gay, d'avoir participé à cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Et une émission qui était consacrée aux forces de l'ONU en marge de la Journée internationale des casques bleus célébrée chaque 29 mai. Il faudrait dire que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décrété cette date pour que nous puissions rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi et servent encore dans des opérations de maintien de paix des Nations Unies en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage, et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Nous disons merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus, et ceux qui nous ont suivis avec attention, que ce soit en FM ou connectés sur www.radiocapi.net.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant modification et révision de la loi électorale de 2006. Dans son article 13, la non-réalisation de la parité homme-femme n'est pas un motif d'irrécevabilité d'une liste des candidats. Un article qui a énervé toutes les femmes venues assister à la plénière en voyant les amendements relatifs au respect de la parité rejetée par l'Assemblée. Au regard de ces décisions, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour permettre aux femmes d'être élues aux mêmes proportions que les hommes? Vous pouvez réagir dès à présent nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe Parole aux auditeurs qui a réalisé cette émission, Kim Poutou et Nicole Ngaka, sans oublier Sylvain Matundi. À demain.